Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver ici à l'émission. Et cette semaine, on ira plus dans un mode discussion, dans un mode réflexion autour de la bande dessinée. Dans un deuxième temps, deuxième moitié d'émission, il y aura entre autres Michel Giguère qui sera de passage pour nous parler du troisième âge dans la bande dessinée. Deuxième volet de réflexion autour de ce sujet. Le premier avait eu lieu à peu près à pareille date, mais dans notre dixième saison, donc l'an dernier. C'est évidemment, vous l'aurez deviné, dans le cadre des rencontres, des rendez-vous de la BD. Parallèlement, on aura dans quelques instants Marco Duchesne qui sera avec nous et on prendra le temps avec lui, dans le contexte d'une carte blanche, là, de discuter des reprises en bande dessinée. On sait qu'il y en a de plus en plus, parfois certaines controversées, parfois d'autres moins controversées. Bref, on va jaser autour de ce sujet-là en sa compagnie. Alors tout ça et plus cette semaine à La Vie en BD. Alors, dans le cadre de La Vie en BD, on offre l'occasion des cartes blanches à nos collaborateurs, collaboratrices. Et j'ai lancé l'invitation aux collègues. Et il y a Marco Duchesne qui a levé la main la semaine dernière. Il a dit « Oui, j'aurais envie d'aller jaser un peu à l'émission. » Marco, bonjour.
Salut Raymond.
Et d'entrée de jeu, Marco en fait un sujet, effectivement, j'ai l'impression qui revient sporadiquement, d'ailleurs, au fil des arrivées de nouveaux albums, au fil des annonces de nouveaux albums aussi, et dans lequel on se retrouve à nouveau, j'aurais envie de dire, avec le Gaston qui s'en vient, qui a été annoncé il y a quelque temps. Donc, l'idée des reprises de séries et des controverses, des réflexions associées, bref, je te lance de façon très, très parapluie, si on peut dire, je te laisse nous faire atterrir à quelque part là-dedans, puis nous amorcer une réflexion autour de ça.
En fait, Raymond, quand tu as proposé cette carte blanche, ça arrive dans le moment où actuellement, il y a une espèce de controverse. En fait, c'est plutôt une actualité qui fait beaucoup jaser d'elle, la reprise de Gaston Dupuis qui relance Gaston Lagaffe dans son journal, qui veut faire des albums avec un compatriote qui est Delaf, le dessinateur et créateur des Nombris, qui a été hébergé par Dupuis pendant longtemps, pendant plusieurs années. Alors, cette nouvelle-là qui, soudainement, a fait surgir les pseudo-critiques, certains qui, moi, je les attends avec un briquet et un fanal, qui ne s'attendent pas, qui sont prêts à critiquer parce que quand on reprend quelque chose de majeur comme des auteurs comme Hergé, comme Jacob, comme Pratt, quand on les reprend, Et il y a de l'autre côté... l'héritage, parce que Dupuis décide, fait l'annonce qu'ils vont reprendre Gaston, et soudainement, les héritiers de Franquin s'en mêlent. Et là, tout aboutit dans des procès ou des trucs juridiques qui vont finir par aboutir à quelque chose, genre, on le fait, et là...
Et ouais, c'est vraiment des répétitions d'ailleurs, parce que je pense que le débat qu'on a autour de Gaston, on l'avait eu autour d'Astérix, on l'a eu autour d'autres, et j'imagine qu'on l'aura éventuellement sur d'autres séries qui vont être appelées à être reprises potentiellement comme ça.
Tout à fait, parce que depuis la nuit des temps, début du 20e, quand la BD a commencé à émerger, les auteurs étaient des esclaves presque des maisons d'édition là, comme DC, Marvel du côté américain, Dupuis aussi, faut pas se le cacher. Dès que l'auteur créait, les personnages, l'univers appartenaient à la maison d'édition. Alors, dans la continuité, les auteurs, à un moment donné, voulaient faire autre chose ou voulaient partir, ils ne pouvaient pas partir avec leur création. Écoute, ça, Batman, Superman, les Avengers, les super-héros, jusqu'à aujourd'hui, ça a été des continuités qui ont été reprises par des auteurs, des dessinateurs. C'est une pléiade, toutes de génération en génération, ils se sont appropriés ces créations-là. Chez Dupuis, du côté francophone, il y avait moins cette mentalité-là. C'est-à-dire que quand Dupuis a créé Spirou, c'est le seul qui a eu à changer de dessinateur, d'auteur au fil des... parce que Spirou appartenait vraiment à Dupuis. Et dans le cas de Franquin, qui a repris Spirou, lui avait réussi à créer le Marsupilami. Et quand il est parti de la série Spirou, il avait réussi à partir avec le personnage du Marsupilami. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu depuis.
Exact, qui est comme disparu jusqu'à temps qu'il y ait un retour qui soit négocié pour le réintégrer à la série. Et ça montre un peu la différence de fonctionnement, parce que je pense que d'entrée de jeu, il faut comprendre cette structure-là, qui est un peu, en fait, j'ai envie de dire d'une autre époque, mais je ne sais pas à quel point c'est une autre époque, parce que j'imagine qu'entre autres pour le manga aussi, il y a une dynamique de studio qui est quand même particulière pour certains types de produits BD.
Effectivement.
Même chose pour le comics.
Effectivement, c'est d'une autre époque, mais c'est qu'on l'a fait perdurer, dans le sens que Dupuis, comme la série Spirou était la seule à changer, par contre, toutes leurs autres séries ont toujours eu les mêmes auteurs jusqu'à temps qu'ils vieillissent, puis jusqu'à temps qu'ils meurent, même parfois. On parle aux Schtroumpfs, les Tuniques bleues, on parle de toutes ces séries-là qui ont été créées et qui n'ont
jamais changé de propriétaire, finalement.
Et qui n'ont jamais, jamais, jamais. Les Schtroumpfs, pour ce qui est de Peyo, à sa mort, son fils a créé un studio. Et là, on comprend qu'on a perduré le truc et on a effacé. En fait, les auteurs du studio apparaissent presque jamais ou sont oubliés ou sont des gens qui s'effacent derrière le studio. Mais pour ce qui est des autres, comme Lucky Luke, à un moment donné, Dargo a réussi à mettre des auteurs là-dessus, faire perdurer un peu la série. Alors, on en est là. La question de la continuité de ces... reprise là, je pense que c'est une question d'argent. Essentiellement d'argent, le débat ne tient qu'à ça, dans le sens que le lectorat en général, les gens qui lisent de la BD et qu'ils ont des héros préférés, eux vont continuer à lire la série, peu importe si l'auteur change. Eux auront peut-être des critiques à faire, genre c'est moins bon que les premiers, puis tu sais, le lecteur en général, Astérix, ça a toujours été ça. Je les ai tous. C'est ça, le lecteur de série. Tu sais, les Tuniques bleues, je me rappelle des clients, puis, tu sais, Marco, dit, un des clients s'était dit, c'est moins bon, hein? J'ai dit, mais c'est à toi de voir, là, ou tu te fais une série imparfaite dans le sens que tu l'as complète, ou tu ne gardes que les meilleurs. Mais c'est ça, en général, la série. Alors, qu'une série comme Gaston, comme Corto Maltese, comme Tintin, Blake et Mortimer continue, pour eux, ben, en fait, c'est continuer à lire leur personnage préféré. Là où, à un moment donné, ce qui coince dans ces reprises-là, c'est les fans, mais les amateurs, qui ne sont plus des amateurs, qui deviennent des fans critiques, qui deviennent des fans où ils ont vu derrière l'œuvre l'auteur. Ils ont vu derrière l'auteur, ils ont vu comment ce personnage-là a pris de l'ampleur grâce au style, grâce à ce que l'auteur a créé. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, le fan fini de Corto Maltese, à l'annonce de la reprise, ben lui, il attend de voir. Alors, oui, c'est bon, oui, c'est moins bon et tout. Ce fan-là, lui, il va continuer aussi malgré tout. Je le sais parce que j'en suis un. Moi, c'est ce qui est arrivé. Là. Ce que je te raconte, c'est du vécu. Là. Pour moi, Corto, il était intouchable. Et quand ils ont repris, je l'ai lu, mais j'étais agréablement surpris. Ce qui fait que, encore là, on comprend, c'est une question d'argent.
Et peut-être que ça fait réagir aussi, si on extrapole un peu sur l'argent, c'est, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ça arrive toujours, c'est structuré un peu où il y a des auteurs qui se font assigner dans le fond des séries, soit au dessin, soit au scénario. Il y a une dynamique d'échange. On est gardé un peu avec cette dynamique où l'auteur n'est pas nécessairement propriété du personnage, mais a créé une histoire avec ce personnage-là. Du côté franco-belge, c'était moins installé, justement, tu l'as dit tantôt, en dehors de Spirou. Et donc, ce qui fait que peut-être aussi qu'avec toutes les annonces successives qu'on voit, eh bien, on a l'impression qu'il y a un système à l'américaine en termes de structure de personnage. qui est en train tranquillement de s'installer, peut-être justement par souci de rentabiliser plus longtemps ces franchises incontournables-là. Et donc, qui s'installe un peu un système façon studio où on va revenir un peu à un procédé comme celui-là, dans la mesure où, pour d'autres séries, ben, ça a quand même marché, ça a quand même eu du succès. Je veux dire, Astérix, les nouveaux, ça cartonne sur le plan des ventes. Donc, c'est clair que j'imagine que le studio se sent parfaitement justifié d'avoir confié la série à d'autres à un moment donné.
C'est tout à fait. À l'américaine, je veux dire, ce qui est jusqu'à maintenant, écoute, ça ne fait pas tellement longtemps. C'est quand Batman de Tim Burton est sorti, Bob Kane a renégocié ses droits, a été en cours pour avoir le droit d'avoir son nom et d'avoir faire partie du processus. Là. Et c'est que récemment que Finger, son scénariste, est inclus là. Maintenant, il est cité. Parce qu'avant, c'était que la création de Bob Kane. Et c'est récemment. Pour ce qui est des X-Men, Jack Kirby n'apparaissait jamais dans les films de X-Men comme étant des créateurs, c'était toujours Stan Lee. Et c'est que je pense qu'au troisième de Bryan Singer que son nom a apparu. Alors, au moment de la création, mais maintenant, évidemment, au fil des années 90, 2000, les côtés américains, ils se sont battus très fort pour que ces auteurs-là soient reconnus par le salaire, puis aussi par le fait qu'ils ont créé dans même la création, dans la Batman, ils sont reconnus maintenant pour ce qu'ils font avec les personnages qu'ils reprennent. Du côté européen.
Est-ce que ça pourrait, parce que si on jase, et là je te fais peut-être bifurquer un peu, mais j'ai l'impression aussi, tu parlais des années 80 avec le film de Burton, mais c'est aussi le moment où on a commencé à confier, j'ai l'impression, puis au-delà des années 90, les personnages à des auteurs. Je me rappelle par exemple du Batman de Alan Moore, du Batman de... et donc là, subitement, dans le fond, on donnait à un auteur un personnage pour qu'il en fasse quelque chose de précis, mais là, subitement, on ramenait la notion d'auteur dans un contexte où, quelques années avant, on y a même les créateurs à l'origine, dans le fond, de ces personnages-là. Donc, ça crée c'est assez particulier comme situation.
En fait, oui, parce que là, tu soulèves quelque chose d'intéressant parce que du côté américain, la série en continu, Batman et Detective Comics, sont en continu. C'est même pas une reprise, c'est de la continuité avec des auteurs qui changent à toutes les 5, 2, 3 ans à peu près. Et là, pour éviter de peut-être stagner là-dedans, ils ont créé, genre, on confie le personnage à des auteurs. Et là, c'est ça, là, avec Frank Miller de Dark Knight Returns, ça a marqué toute la dynamique que pouvait avoir une maison d'édition avec un personnage. Et là, a déboulé des adaptations de Batman avec des auteurs, comme tu le dis, Alan Moore, comme Grant Morrison, comme un paquet d'autres. Et là, ça... Mais du côté européen, ils ont fini par le comprendre. Et c'est toujours avec Spirou. Rappelle-toi, la série Spirou arrive à un moment donné où Tom et Jerry veulent sortir... Tom et Jerry veulent sortir... La machine à rêver, veulent sortir Spirou du style franco-belge, en font quelque chose un peu plus réaliste. L'album n'a pas de succès. Et se crée à ce moment-là, Dupuis crée à ce moment-là, une aventure de Spirou et Fantasio vue par... Et là, on a commencé cette collection-là où on fait carte blanche à... Et c'est drôle parce que carte blanche est une vieille collection de Dupuis à laquelle il confiait à un auteur quelque chose, de créer quelque chose. Mais dans ce cas-ci, carte blanche à des auteurs pour reprendre en un album ou série limitée leur vision de Spirou et Fantasio. Et là, on a eu droit à... un paquet. Et là, les amateurs de Spirou et Fantasio ne sont pas obligés de sortir des clous. Ils ne sont pas obligés de... Alors, ils peuvent le faire, mais peut-être qu'ils reviendront... ils vont en lire quelques-uns, mais ils peuvent continuer à lire leur série. Et c'est ça, l'idée.
Et j'ai l'impression que Spirou et Fantasio, encore là-dessus, devient un peu pour le franco-belge, un peu le laboratoire. Dans le fond, c'est la première série qui a été créé voilà. par quelqu'un, mais qui rapidement, dans le fond, s'est vu transférer, puis l'a été dans toute son histoire. Dans le fond, c'est une série qui a perduré, mais avec plusieurs auteurs. C'est la première série, j'imagine, en raison de ça, mais c'est la première série qu'on a commencé à penser prêter à d'autres auteurs, jusqu'à temps, éventuellement, qu'on commence à faire ce test-là aussi avec d'autres personnages. Lucky Luke en est un bon exemple. Ou en parallèle, jusqu'à temps qu'on commence à mettre de l'avant un peu l'idée de reprise de personnages de façon un peu plus systématique avec Blake et Mortimer, Astérix, etc., etc., au fil des années également.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, cette dynamique-là, surtout avec les Spirou et Fantasio, si tu te rappelles bien, ça a provoqué cette vague-là de reprises, de choses dont l'auteur n'était, de séries dont l'auteur n'était pas mort et certains étaient morts. Et là, je pense à cette dynamique-là qui est l'argent. Oublie pas, c'est toujours l'argent qui fait en sorte qu'on veut continuer quelque chose qui se vend. On s'entend, là. Un des beaux exemples, et c'est toujours l'argent, ça ne veut pas nécessairement dire succès auprès des lecteurs, même des fans. Je pense à Bob Moran. Bob Moran, rappelle-toi, il y a quelques années, est sorti un diptyque,
oui.
une adaptation de jeunes auteurs. Je ne me rappelle plus de leur nom, mais ils avaient... Je pense que Henri Verne avait peut-être cautionné ou pas, mais Lombard avait vraiment cautionné. Et ils avaient donné un diptyque, une adaptation de Bob Moran, contemporaine à aujourd'hui, un reboot, que les Américains appellent, une reprise, oui. Et là, dans un style réaliste, d'action et tout, il nous avait donné un beau produit, un reboot qui était prometteur pour actualiser, moderniser ce personnage-là qui, on se le cache pas, là, a vieilli, des fois un peu mal vieilli, et ça a toujours été... Et là, Henri Verne, de son vivant, qui ne produisait plus ses romans, parce qu'il s'est ramassé avec ses droits et tout, qui n'arrivait plus à les faire éditer, au niveau de la BD, les éditeurs ne suivaient plus non plus, manque d'intérêt du lectorat peut-être. Et ça, ces deux albums-là, modernes, qui arrivent et qui ont eu un certain succès. En librairie, en tout cas, nous, on l'a senti. Et Henri Verne n'était pas content de l'adaptation et a repris ses droits. Tu vois, l'histoire, c'est toujours l'argent, mais en fait, il faut voir ce que veulent les auteurs. Parce que là, dans le vif du sujet qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire Gaston Lagaffe, que ce soit des séries, des personnages majeurs, qu'on soit d'accord ou pas, ce sera toujours l'argent. Mais la considération, à mon avis, là, si tu veux mon avis, c'est qu'est-ce que veut l'auteur? Qu'Henri Verne ne veuille pas que de jeunes auteurs reprennent son personnage, c'est correct. Même s'il en fait quelque chose que moi, j'aurais suivi, là, cette série-là, j'aurais embarqué, j'adore ces deux albums-là. Mais qu'est-ce que veut l'auteur? Franquin, dans une interview, je ne me rappelle plus de la date, je l'ai pogné sur Internet, dans une interview, mentionne qu'il ne veut pas que Gaston soit repris après sa mort. Il ne veut pas qu'il lui survive. Comme Hergé l'avait exigé dans une autre interview aussi. C'est ça, à mon avis, c'est ce qui devrait être pris en considération numéro un. Casterman, on le sait, n'a pas fait de reprise de Tintin parce qu'ils attendent qu'ils tombent dans le domaine public probablement pour que là, les droits... Bon, ça n'empêche pas Moulin
de Farc. Soit il y aura le débat justement en route parce que je pense que le terrain s'est préparé à quelques reprises quand on suit l'actualité de la BD, entre autres. Sur Tintin, mais c'est la réflexion, j'imagine, de Moulinsart. Est-ce qu'ils vont sortir un nouvel album avant que la série rentre dans le domaine public pour retarder l'arrivée de Tintin dans le domaine public aussi? Parce que ça peut être un objectif. Il y a beaucoup de soucis de ce côté-là qui seraient potentiellement perdus si ce qui est relatif à Tintin finissait par appartenir à tout le monde, un peu comme 84 a fait le point de bascule l'an dernier.
Tout à fait, mais ça, je pense qu'il y a une question avec Casterman aussi, au niveau des droits, parce que Casterman ont toujours le mot à dire dans ça. C'est quand Moulin Sart a été créé à côté. Je pense que la guerre est entre les deux. Mais tu sais, comme je te dis, c'est les auteurs qui ne mentionnent. Là, je ne sais pas si juridiquement, c'est dans leur.
C'est ça, il y a l'intention de l'auteur, puis il y a la réalité juridique, Franquin, les contrats et le reste.
Effectivement, Franquin, dans l'interview, je me rappelle, dans l'interview, il parle non, je ne veux pas que Gaston soit repris parce que bon, c'est moi qui l'ai créé. Puis, même chose, tu sais, je veux dire, c'est un artiste. Là. Et là, il développe son truc, mais il dit je suis bien conscient qu'on ne m'écoutera pas, je suis bien conscient qu'ils vont finir par le faire, mais je serai mort. Alors, il a vu qu'est-ce qui s'était fait ailleurs, et là, il est bien conscient de ça. Et là, ça veut dire tout simplement, c'est une question d'argent. D'ailleurs, si toi, tu mentionnes que ta création, tu ne veux pas qu'elle soit reprise, tu meurs et tes enfants reviennent, disent non, non, on ne reprend pas, mais peut-être que si on se négocie des. C'est encore une foutue question d'argent, de droit.
Qui possède les droits, à qui parler, de quelle manière gérer ça? Et j'imagine que ça amène en fait aussi des fois un double débat. C'est comme si, je dis un peu, peut-être un peu n'importe quoi, mais on peut avoir l'impression en regardant la scène comics américaine, il y a quand même beaucoup de choses qui se fait, mais c'est difficile pour des nouveaux personnages d'être le nouveau Batman, d'être le nouveau Superman, d'atteindre ce niveau-là de lectorat comme tel, parce que, dans le fond, comme il n'y a pas eu de renouvellement, comme il n'y a pas de séries qui ont fini par finir, par passer à l'histoire, et qu'il y a toujours du nouveau matériel, mais ça devient difficile aussi pour des nouveaux personnages de percer, parce que c'est très saturé, dans le fond, à l'arrivée.
Ce n'est pas la saturation, c'est la patience. Les éditeurs n'ont pas la patience, et c'est encore une question de fric, n'ont pas la patience d'attendre qu'une série, un personnage émerge du côté américain comme du côté francophone. Rappelle-toi, à l'époque, on nous sortait des séries et là, les séries pouvaient se rendre. Il y avait des séries bien établies qui continuent encore aujourd'hui à y avoir de nouveaux numéros avec des nouvelles aventures de personnages, Dupuis, Lombard, Dargo, peu importe. Et là, est arrivée une époque où on stoppait certaines séries au 8e, 9e numéro, tome, tout ça. Et là, soudainement, on y va avec deux tomes. Si ça marche, peut-être. Puis même, des fois, on ne voit pas le deuxième tome, n'est-ce pas? Et là, cette patience-là, parce que c'est encore une question d'argent, de soutenir une série prometteuse, ça coûte de l'argent. Donc, on va tuer dans l'œuf des créations.
Oui, en fait, je pense que c'est Rosinski qui avait dit dans une entrevue que de faire un nouveau Torgal aujourd'hui, ça serait extrêmement difficile parce que Torgal avait pris du temps avant vraiment de s'établir comme série.
Les auteurs s'installaient, puis les éditeurs le comprenaient à l'époque parce qu'ils avaient le temps. Ils avaient peut-être pas l'argent, mais ils avaient le temps de voir venir à faire ces ans. Et là, en fait, les francophones, en Europe, les maisons d'édition et tout, ont bien vu que Batman, toute cette série-là, reprise et tout, là, c'est ce qu'on parle. Ils ont bien vu que ça continue. C'était bien, là, c'est l'argent. Mais le comics, il sort quand même 28 à 30 pages par semaine, par mois. Une aventure se fait tous les mois, là. Se poursuit tous les mois. Les francophones ne peuvent pas faire un 13 ou un Largo Winch tous les mois. Putain, ça prend un an et demi à faire. Alors, c'est ça qu'ils ont compris. On ne peut pas soutenir des nouveaux. Par contre, on fait durer les autres et on fait des spin-offs. Et là, on multiplie les trucs. Tu comprends? Là, ils
sont. Oui, puis en fait, si tu parlais de 13, par exemple, je pense qu'il y a 13, il y a l'histoire de 13, il y a l'histoire.
Ah oui, et là, on a
Torgal aussi, je le mentionnais tantôt, qui, en place de justement faire une reprise de la série centrale, c'était resté jusqu'à récemment à Rosinski, là, c'était transféré, mais il y a un univers d'albums qui s'est bâti autour pour pallier, pour au moins pouvoir sortir un album par année, parce qu'on savait que le rythme de production de la série centrale serait peut-être un peu plus long.
Mettre deux équipes sur un personnage. Blake et Mortimer, là. Ce qui est drôle, c'est que le beau projet au début, c'était de sortir deux albums par année en mettant des équipes. Mais ils ont vite compris que les équipes, ils n'ont pas été chercher des deux de pique. Là. On pense à Juillard, on pense à Benoît. Bref, il y a une pléiade d'artistes qui se sont joints à ce projet-là. Mais c'est des artistes majeurs qui ont d'autres projets ou font autre chose, ce qui fait que les albums retardaient. Puis il y a un beau projet de deux albums par année comme tombé un peu à l'eau, dans le sens que la série se poursuit, c'est vrai, mais là, c'est sur deux plans. Ce qui fait que, c'est ça, Tout ça pour se résumer à une seule chose, c'est l'argent et la décision de l'auteur face à l'œuvre. Ses droits à lui et ses droits qu'on respecte ou ne respecte pas, mais c'est l'argent. C'est depuis le début que c'est comme ça.
En fait, ça reste, dans le fond, quand on parle de l'industrie du livre, de l'industrie culturelle, etc., etc., ça nous rappelle un peu ces éléments-là. Puis, au bout du compte, on fait des parallèles aussi avec le cinéma, avec la télévision. Dans le fond, on est beaucoup dans les reprises, dans les réinventions, dans les reboots, dans les suites, dans les franchises. Et l'obsession, dans le fond, de la franchise, parce qu'à l'arrivée, ce qu'on se dit, c'est que c'est plus facile, une fois que la franchise est établie, d'un point de vue marketing, d'un point de vue vente, d'un point de vue communication, on a simplement à dire, hey, il y a un nouveau Astérix, la machine est déjà en place. Les libraires attendent, c'est 20 millions d'albums qui sont commandés dès le départ. Donc, la machine est placée. On a moins d'efforts à faire pour le vendre comparativement à une nouvelle série, un nouveau personnage où là, il faut redoubler d'ardeur pour essayer de le faire établir, pour qu'il se retrouve un peu en librairie, sachant qu'en plus, et tu me diras de ton côté, mais dans ma tête, la pression même pour rester dans les étalages en position intéressante en librairie, c'est quand même complexe parce qu'il y a beaucoup d'albums, il y a beaucoup de poussées, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de rythmes à travers tout ça. Donc, c'est difficile de lancer un nouveau personnage dans un contexte comme celui-là aussi.
Oui. C'est difficile et c'est encore une fois argent et patience. C'est que ça, là, difficile. Puis, tu sais, on ne se casse pas le cul. L'éditeur, quand il arrive, il dit bon, ben, on va continuer Corto Maltese. Le personnage est déjà défini. Le personnage a déjà du vécu, là, des 30 ans de vécu avec des albums, puis des histoires, des personnages secondaires qui reviennent. Là. Il est établi. Tu mets deux auteurs et là, annonce le prochain Corto, et effectivement, comme tu dis, le succès est assuré. Si les deux mêmes auteurs, parce que bon, c'est quand même des auteurs établis, Pellegrino et Camalès, le scénariste qu'on a eu.
Camalista.
Ouais. Et les deux sont quand même établis. Alors, les deux vont créer une série à côté, puis ça va passer inaperçu, peut-être, au moins pour ce qui est de du lectorat général, peut-être qu'il va passer inaperçu, mais tu sais, c'est déjà établi, ce qui fait que tu n'as pas à te casser le cul. C'est déjà... Gaston, c'est ça, Delaf, il a créé avec sa femme, je pense, ou à l'époque, ils ont créé les Nombris. C'était un vent de fraîcheur chez Dupuis dans la
bande. Je pense avec Lou puis Les Nombris, c'est les deux des séries qui ont vraiment réussi à se trouver au top 10.
C'était innovateur.
Au côté des reprises.
Oui. C'était innovateur à cette époque-là parce que, d'abord, il s'adressait à un public général avec des histoires d'ados et tout, mais du côté humour, de faire revenir des trucs en continu dans leur histoire et en finir par nous raconter en un album, ils sont passés de l'humour à l'aventure. Là. Et ça, il y a peu d'auteurs qui avaient réussi à faire ça chez Dupuis, en tout cas. Et là, son succès est établi. Les Nombris, dès qu'il sort un album, ou quand il sortait un album, putain, attends, là, c'était la frénésie. Là. Et tu as cet auteur-là qui... Probablement, s'il veut créer quelque chose d'autre, là, il va falloir qu'il fasse des projets, il fasse des trucs. Ce qui fait qu'on lui propose ça. Voilà, le personnage est tout fait et tout. Mais bon.
Et puis en même temps, je me mets aussi à la place des auteurs qui reprennent les séries. Donc, c'est sûr qu'il y a des considérations économiques. Tu veux dire, c'est clair que de reprendre un auteur comme ça, un contrat, c'est un contrat potentiellement garanti d'un côté, mais de l'autre, il y a un honneur, il y a un plaisir. Je veux dire, Astérix, reprendre Gaston, des BD avec lesquels on a grandi, faites par des grands maîtres. C'est une grande pression, mais un grand plaisir aussi de tenter justement de rendre hommage à cette série-là avec ces reprises-là.
Tout à fait, non. Au-delà du capitalisme fou que dans l'époque dans laquelle on vit et que j'arrête pas de mentionner que c'est une question de fric, je veux dire oui, mais en même temps, effectivement, de voir des personnages repris par des auteurs qui savent s'adapter. Eux, s'adapter à quelque chose d'établi et quelque chose d'établi, je ramène encore l'exemple de Corto Maltese, pour moi, c'est bien évident que non seulement les auteurs ont eu un plaisir fou à faire ça et que pour eux, c'était rendre hommage aussi même si c'était des albums de l'aventure, on le sent bien, mais qu'ils ont saisi. C'est sûr qu'au niveau de la création, le génie, c'est de créer quelque chose, mais il y a un bout de génie à reprendre une création et à la... Tu comprends? À faire en sorte de nous montrer que, oui, regarde, c'était ça, Cortot. Et puis là, tranquillement, ils vont mettre de du leur, probablement. Si on perdure, si on est assez patient. Je pense à Astérix. Quand Ferry et Conrad sont arrivés, là, on les attendait avec une brique et un fanal, puis ça, le premier album était bien. Mais ils ne pouvaient pas faire pire qu'Uderzo avait fait avec l'autre. Là. Je veux dire, ça, c'est de la destruction complète d'un personnage ou d'une reprise, et par son auteur même. Voilà, c'est dit. C'était l'éditorial. Et quand Conrad et Ferry, ça donne au premier et au deux, déjà là, on voit être plus à l'aise avec non seulement le dessin, parce que le dessin, mais on sent encore la patte de Conrad et Ferry, il va avec à la manière de Goscinny. Et là, au trois, puis à mesure que ça avance, Ferry développe son propre humour, il va de ses propres essais, puis Conrad, on sent bien qu'à maîtriser le style d'Uderzo, mais va finir par avoir ses visages. Parce que du côté américain, ça, c'est flagrant. Je veux dire, tu sais, les gens se plaignent, oh, il y a trop de différence entre les dessinateurs et tout, mais non. En fait, tout est dans les codes. Quand tu reprends un personnage de Batman, il y a quelque part le playbook qu'on appelle, et le playbook, il dit le costume doit être comme ça. Bruce Wayne doit avoir l'air de ça. Et les personnages ont l'air de ça. Et ça, ça ne change pas tant que l'éditeur a décidé on va changer le costume. Mais ça, c'est des rappels pour les dessinateurs. Peu importe le style que tu as, peu importe la manière dont tu dessines, que tu colores, il faut que ça reste parce que le lecteur, quand il arrive avec un nouveau dessinateur, il faut qu'il soit... Donc, c'est la même chose du côté francophone. Astérix, il faut qu'il soit habillé pareil, évidemment. Il ne peut pas changer ça.
Ou si tu le changes comme dans Spirou, il faut que ça soit justifié à un moment donné.
Tout à fait, voilà.
Et Marco, en fait, je pense qu'on a lancé beaucoup de belles questions, réflexions pour les auditeurs, auditrices. Peut-être en terminant, je te prends un peu à brûle-pourpoint là-dessus, mais si je te demandais de dire, ben, top 2, 3, 4 reprises que toi, tu juges là, ces reprises-là, comme lecteur, comme le Marco Duchesne lecteur, là, qui ont vraiment réussi à t'emporter, puis réussi à te faire peut-être oublier justement un peu les considérations économiques, capitalistes, le système un peu autour de ça pour purement retrouver l'expérience de plaisir du lecteur.
Ben, d'abord, il y a Cortot. Cortot, Hugo Pratt, pour moi, c'était l'intouchable. Et à la reprise, quand les trois derniers albums, j'étais satisfait. Le lecteur en moi, bon, c'est... Et chaque fois, tu sais, à un moment donné, tu lâches plus, tu te dis, ben là, c'est pas Pratt, non? Ça peut pas être Pratt, il est mort. Tu sais, c'est comme Blake et Mortimer, ça peut pas être du Blake et Mortimer, il est mort. Donc, à cette reprise-là, pour moi, ça a été une joyeuse surprise. Même le dernier de Vivès, qui fait une espèce d'adaptation moderne, même ça, ça m'a surpris. Je trouvais que le scénariste avait saisi une fois. Une des autres... reprise, ça a été les Lucky Luke, mais les deux hors série. Même Lucky Luke a été bien repris par ceux. En général, ils ont bien saisi le truc. Mais les deux Lucky Luke, Wanted et L'homme qui tue Lucky Luke, sont de magnifiques reprises avec tout ce qu'il y a dedans. Bonhomme arrive à faire.
Bonhomme.
Arrive à faire toutes les caractéristiques des personnages et tout, mais. En le mettant pour adulte. C'est comme s'il créait un truc, gars, on va séparer un peu, puis je vais m'adresser aux adultes. Ça a été pour moi les belles reprises. Et le Bob Moran, dont j'ai cité tout à l'heure le diptyque fait par ces deux auteurs-là, chez Lombard, pour moi était waouh. J'ai Bob Moran en BD, j'en ai lu quelques-uns. J'en avais quelques-uns, mais des vieux, puis j'ai jamais lu les romans. Ce qui fait que moi, ça m'avait beaucoup plu. Je n'étais pas attaché aux vieilles affaires. Et Astérix, pour finir, Astérix, moi, dont la reprise, je la trouve efficace puis prometteuse.
Ben, donc, un tour d'horizon de cet enjeu, de ce dossier et de ces albums qui en émanent. Marco Duchesne, je rappelle, libraire chez Pantoute. Merci beaucoup.
Plaisir.
En quelques instants, je me rends compte que je ne vous ai pas reparlé des BDistes Causa depuis que j'en avais annoncé les finalistes il y a quelques semaines de ça. Et les lauréats sont sortis évidemment dans le cadre du 35e Festival Québec BD. Alors, je prends quelques instants pour vous les relayer rapidement. Essentiellement, Prix Albéric Bourgeois, donc l'album francophone publié à l'étranger par une autrice ou un auteur canadien. Ça a été donné à Créature, premier tome, donc La ville qui ne dort jamais, de Stéphane Bébédé et JF chez Dupuis. Superbe récit, évidemment, qui nous place dans un New York post-apocalyptique avec des accents lovecraftiens. On vous en a parlé avec force de détail et on vous encourage fortement, ici à l'émission, à y jeter un coup d'œil. Sinon, le prix Maurice Petitdier, album francophone édité hors Canada, ça a été donné à René Aubois Dormant d'Hélène Hudin chez Sarbacane, un album aussi dont on vous a parlé ici à l'émission, qui avait également remporté d'ailleurs, je crois, le Grand Prix de la critique ACBD. Superbe récit, visuellement, là, c'est hallucinant, avec des questions poignantes là, autour de l'identité comme telle, de la culture. Alors, c'est très pertinent et c'est superbe visuellement, donc à découvrir. Le prix Roberto Wilson, qui lui est donné à un album francophone issu d'une traduction, eh bien, il a été offert à Monstre de Barry Windsor-Smith chez Delcourt. Une relecture, j'aurais envie de dire, presque un peu du Frankenstein, dans la mesure où il y a des questions qui sont portées dans le Frankenstein de Mary Shelley, qui sont explorées encore plus en détail, dans le fond, dans ce Monstre de Barry Windsor-Smith. Une brique, là, c'est plus de 300 pages, mais ça vaut la peine d'être lu. Prix Réal Filion, donc autrice québécoise ou auteur québécois pour son premier album professionnel. Ça a été remis à Valérie Boivin pour son Rien de sérieux chez Nouvelle Adresse. Un livre qui, à Québec, à tout le moins, a été âprement lu puisque c'était le livre de la démarche Une ville, un livre de Québec, ville littéraire de l'UNESCO. Alors, j'ose espérer qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu l'opportunité de découvrir à ce moment-là. Donc, premier album BD d'une autrice qui s'est surtout fait connaître en illustration jeunesse, tout particulièrement avec quand même une belle série de livres de ce côté, qui réussit à adapter son trait au contexte BD dans une production quand même qui nécessite beaucoup plus de planches, plus de dessins, donc dans un cadre un peu différent. Visuellement, ça marche, le rythme est là. Bref, on peut comprendre pourquoi le jury lui a offert ce prix. Évidemment, on est autour de l'amour à l'ère de Tinder et des nouvelles technologies. Sinon, prix Yvette Lapointe, album jeunesse de langue française publié par des autrices canadiennes et des auteurs canadiens. Ça a été remis à Truffe de Fanny Britt et Isabelle Arsenault à la Pastèque. Superbe album jeunesse à découvrir, plus pour les plus petits, là, pas pour les 12-14 ans, là, mais on est vraiment dans du 6-8 ans avec cet album-là. L'histoire d'un petit gamin, pas ordinaire, vraiment sympathique. On parle de musique, Nina Simone et le reste. Donc, bref, vraiment une chouette ambiance dans ce récit-là à découvrir. Le Grand Prix de la Ville de Québec, donc bande dessinée de langue française publiée au Québec par des autrices canadiennes et des auteurs canadiens. Ça a été donné à Mégantic, Un train dans la nuit d'Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kennel chez Éco-Société. Un doublé en 2 ans, dans le fond, pour Kennel, qui l'avait emporté, je crois, l'an dernier avec Vous avez détruit la beauté du monde. Pour Mégantic, on en a parlé, je pense, à l'émission d'ouverture de la saison ici. Vous irez réécouter l'entrevue par ailleurs. Là. Mais vraiment, donc, un récit poignant, fâchant aussi sur ce qui s'est passé à Mégantic et sur ce qui ne s'est pas passé. Ce qui s'est passé, on le sait, c'est l'explosion de ce train. Ce qui ne s'est pas passé, bien, c'est, vous vous compte, la vérité qui n'a pas nécessairement émergé pour diverses raisons. Il y a toujours des combats là-bas pour la faire émerger. Justement, c'est mis en scène de façon brillante par Kennel à partir d'un récit extrêmement documenté d'Anne-Marie Saint-Cerny. Donc, bref, on peut comprendre aussi le vif intérêt de cet album donc pour le jury. Et sinon, les deux derniers qui ont été remis, c'est le prix Jacques Urtubise, donc pour un auteur émergent, une autrice émergente. Donc, c'est l'idée, dans le fond, d'encourager la production indépendante aussi. Ça a été donné à 50 nuances de bruit de Sandra Bro. Et le prix Albert Chartier, donc le prix hommage pour carrière de façon large, ça a été remis à Réal Godbout et Pierre Fournier pour leur apport ma foi, incontournables à la bande dessinée d'ici. Ils ont contribué à écrire l'histoire de la BD, à écrire des personnages qui sont devenus, au-delà de la BD, des emblèmes pour le Québec au sens large. Michel Risque, Red Ketchup, Capitaine Québec et d'autres. Donc, c'est évidemment des acteurs incontournables, la BD d'ici, et on ne peut qu'être content que leur apport majeur ait été reconnu par ce prix là, à l'occasion du 35e Festival Québec BD. Alors, bien, toutes nos félicitations aux lauréats et lauréates, évidemment. Et puisqu'on parle du Festival Québec BD, j'en profite pour mentionner que le pavillon de la BD, lui, est ouvert jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, si vous passez par le Vieux-Port ou le Vieux-Québec, allez jeter un coup d'œil. Des belles expositions de ce côté à découvrir. Alors, toujours à la vie en BD, on s'intéresse maintenant à un événement, une activité qui s'en vient. Je pense qu'à chaque mois, on se fait un devoir justement de les relayer et d'explorer un brin la thématique. Alors, vous aurez compris qu'on parle des rendez-vous de la BD. Et le dernier rendez-vous de la BD de la saison à la Maison de la littérature va se tenir le mercredi 11 mai prochain à 19h. Et pour en jaser, ben, on est en compagnie de son animateur, médiateur en bande dessinée, Michel Giguère. Bonjour.
Bonsoir, Raymond.
Et Michel, en fait, on se reporte pratiquement il y a un an à pareille date. Tu avais présenté une rencontre qui s'intitulait « Le troisième âge dans le neuvième art ». Et tu poursuis, dans le fond, en mai avec la deuxième partie et la dernière partie, donc « Les vieux sacripants ». Fidèle à ton habitude, ben, tu nous présentes un peu tout ça. Et au bout du compte, tu nous as expliqué, Michel, que peu importe le thème que tu mets au programme dans ces rencontres-là, ouais. Bien souvent, l'abondance de la production est telle que tu ne peux pas en faire le tour en une soirée. Donc, on comprend, les présentations en deux ou trois parties se font de plus en plus légion et visiblement, ben, le troisième âge dans le neuvième art n'y a pas échappé.
Mais non. En mai 2021, l'an passé donc, il avait été question de la relativité de la notion d'âge et puis de vieillesse. Hein? Ça veut dire quoi? Là? Est-ce qu'il y a des fois, il peut y avoir deux personnes de 70 ans qui un va se sentir vieux, l'autre non? Ou même, il y en a à 50 ans qui se sentent vieux. Il avait été question des personnages secondaires qui sont plus âgés puis qui servent de faire-valoir dans un tas de BD. Il avait été question des relations père-fils, de la mémoire, de la perte de la mémoire, de la mort. Alors, sans être sinistre ou déprimant, en tout cas, c'était sérieux et certainement émouvant. D'ailleurs, c'est toujours visible en rattrapage hein, sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Et puis, dans la seconde partie, mercredi prochain, l'émotion sera encore au rendez-vous, mais là, ça va brasser pas mal plus.
Oui, ben en fait, puis la thématique nous renvoie à ça. Dans le fond, te garder ces vieux sacripants, entre guillemets, pour la fin.
Oui, absolument. Bon, par exemple, la série Astérix, elle propose deux archétypes du troisième âge, tellement représentatifs. D'abord, le vieux sage, tel qu'incarné par le druide Panoramix, figure rassurante, savante même, au tempérament mesuré. Et l'autre, âge canonix, emblématique des vieux toqués, des vieux boqués, comme on dit, qui semblent l'exact contraire du sage. Et pourtant, ils ont, dans les deux cas, un riche bagage d'expérience, mais ils n'en ont pas gardé les mêmes enseignements, mettons. Hein. Alors, la diapo-conférence de mercredi prochain est consacrée, évidemment, à cette deuxième catégorie. Et je vais garder ça pour la fin, les vieux têtus, les déraisonnables, les rebelles, même les fouteurs de merde. Bref, les vieux sacripants. Et ce qui est fou, comme toujours, indépendamment du sujet, là, c'est l'immense variété des styles graphiques et narratifs, la variété des esthétiques, des tons, des types d'humour, des ambiances dramatiques. Alors, pendant la préparation, le diaporama se déploie sur mon écran d'ordinateur au fur et à mesure que je le monte, et j'en reviens juste pas à quel point c'est diversifié.
Et Michel, en fait, j'imagine qu'un des principaux facteurs qui génère peut-être un peu cette diversité-là, ben, ça peut être peut-être l'époque de la publication, parce que je sais et je rappelle aux auditeurs, aux auditrices que tu fais toujours un point d'honneur justement de couvrir autant la production récente que la production un peu plus âgée.
Oui, c'est vrai. Rien que dans le magazine Fluide Glacial, fondé par Gottlieb, on couvre... En tout cas, pour ce qui est de ma présentation des exemples que j'ai choisis, là, on couvre du début des années 80 avec Carmen Cru de Lelon et Sœur Marie-Thérèse de Batignolles de Meister, jusqu'à aujourd'hui avec Vieille peau de Pochep et puis Les Mémés de Sylvain Frécon. Fluide glacial avait décidément une prédilection pour les vieux indignes et les vieilles indignes. Et par ailleurs, Fluide a fait sa marque de commerce hein, de cet humour adulte et provocateur qu'on connaît. Et je vais aussi proposer des œuvres humoristiques, mais qui se situent sur un autre registre comique, comme par exemple Les Vieux Fourneaux, ou qui mêlent drôlerie et drame, tels que l'exceptionnel Les Petits Ruisseaux, ou bien L'obsolescence programmée de nos sentiments, là, ou encore Miss Marple d'après Agatha Christie même. Et il y en a d'autres encore qui matinent le ton dramatique d'un humour noir à glacer le sang. Je pense à Léon Lacam, La peau de l'ours ou encore Les vieux maudits du Québécois lève-tende. Sans compter les titres moins connus, mais à découvrir absolument, à commencer par les trois albums du Suisse Cosé que je vais présenter ce mercredi. Cosé qui s'évalue le Grand Prix d'Angoulême en 2017, mais qui pourtant demeure méconnu, je trouve. Moi, j'adore l'ensemble de son œuvre.
Et justement, en fait, je pense que durant ta préparation, souvent, bon, quand dans l'ensemble des lectures que tu fais, des relectures que tu fais, tu as une révélation, tu as un titre qui était passé peut-être un peu inaperçu. Est-ce qu'il y en a un, justement, qui a passé inaperçu dans le passé que tu nous recommanderais chaudement?
Oui, deux titres, en fait, j'en aurais deux. Et puis, assez récents, qui, l'un et l'autre, mettent en scène un vieil obstiné qui défend ce qui lui est cher face à un adversaire redoutable. Et premièrement, 35 ans après le transpersonnage, il y a Rochette qui nous a offert un autre chef-d'œuvre en 2019, simplement intitulé « Le loup ». Et puis, deux BDistes mexicains que je ne connaissais pas, Ricardo Vilbar et Max Vento, qui ont réalisé « Le vieil homme et les narcos », l'histoire vraie du propriétaire d'un ranch, ça c'est en 2011, propriétaire d'un ranch convoité par un clan de narcotrafiquants, donc qui y défend sa propriété. Alors, deux confrontations complètement différentes, mais deux lectures qui m'ont jeté à terre, là, vraiment.
Et deux auteurs, en fait, de différentes nationalités, donc qui montrent aussi la variété de la production, la variété des origines, au-delà des styles visuels et graphiques, là.
En plus, oui, il y aura notamment des Américains avec Old Man Logan, alias Wolverine, mais Wolverine avec des cheveux blancs, ainsi que l'as pilote de la Première Guerre mondiale, le Baron Rouge. Il y aura aussi des Espagnols avec les créateurs de Black Sad, Canales et Guarnido, mais ici, chacun de leur côté, pour les BD avec leurs petits vieux. Là. Et la soirée va se conclure, une fois que les enfants seront couchés, sur un aspect qui reste un tabou, à savoir la sexualité des personnes âgées.
Et qui est amené dans la thématique un peu vieux sacripant aussi, parce que souvent, ça va être un ressort humoristique, on peut imaginer.
Oui, mais il y a certaines de ces BD-là, en fait, la plupart qui vont terminer la soirée, puis que, sur laquelle je vais m'attarder un peu sur le volet sexualité, des fois, on dirait que l'humour, c'est comme pas une béquille, mais un billet quand on est mal à l'aise. Hein? C'est comme on se donne une consistance là, par le biais de l'humour. Alors que là, non, eux autres, les auteurs de ces BD-là le prennent de front, montrent des scènes d'intimité avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de sérieux, beaucoup de respect. C'est vraiment, vraiment très beau. Je fais des farces quand je dis on va attendre que les enfants soient couchés, là. Mais c'est vrai que c'est un dernier tabou, voire on dirait que quand la loi de la gravité se fait sentir dans le corps humain, on arrête de vouloir montrer ces corps-là, alors que là, il y a des BDistes qui l'ont fait, à commencer par Rabaté avec Les Petits Ruisseaux, là. Alors, ce sont des très belles scènes. Puis, c'est ça, non, l'humour qui vise un petit peu à... C'est ça, non, c'est
mieux faire passer ce tabou-là, dans le fond.
Oui, ouais, voilà. Parce qu'on... ils le font de front, mais avec beaucoup de douceur.
Mm. Oui, puis c'est intéressant, en fait, justement, de voir un peu que la BD va aborder, puis qu'on pourrait mettre aussi ces éléments-là à la limite, puis là, j'extrapole, mais dans toute la réflexion sur la diversité corporelle, par exemple, donc on parle beaucoup des formes, mais de l'âge des corps aussi, puis d'accepter cette notion-là, cette variété-là, dans le temps autant que dans la nature,
ouais.
Puis dans la variété.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que toute cette mouvance-là, tous les débats qu'il peut y avoir sur la diversité, tant de l'identité que de l'apparence corporelle, c'est un débat qui est souvent ramené aux plus jeunes. Et puis, ça serait très intéressant d'élargir le débat, puis d'y inclure, pas le débat, mais la réflexion, et d'y inclure aussi, justement, la représentation des personnes âgées. Et puis là, peut-être que même, il peut y avoir des différences entre les sexes, entre autres, surtout au cinéma, là, depuis tellement longtemps, tu vas avoir un couple au cinéma et tout le monde va trouver à peu près normal qu'un acteur vieillissant et pas particulièrement beau, il rentre à la maison, puis son épouse, c'est un pétard qui a 30 ans de moins que lui, puis c'est normal, tu sais. Mais non. Fait que là aussi, il y a deux poids, deux mesures.
Et comme quoi, ben dans le fond, juste avec une thématique comme ça, des réflexions et des planches, ben, ça machine à débat, ouverture à discussion. C'est aussi ben, de profiter de la BD pour justement ouvrir à la réflexion, nous faire découvrir différemment des auteurs, des livres, des univers. Et Michel, à nouveau, enfin, un beau programme, je pense, pour ce dernier rendez-vous de la BD de la saison à la Maison de la littérature. Je le rappelle, c'est mercredi prochain, 11 mai, 19 h. Ça s'appelle Le troisième âge dans le neuvième art, deuxième et dernière partie des vieux sacripants. Et je rappelle, en fait, pour y assister en salle, il faut réserver sa place auprès de la billetterie de la Maison de la littérature. Et sinon, il y a toujours les webdiffusions là, sur la page Facebook de la dite maison également.
Bien, merci Raymond et à mercredi prochain tout le monde.
Excellent. À bientôt.
Ciao.
On va prendre quelques instants pour quelques commentaires BD. Alors, ben, d'entrée de jeu, on va parler un peu de bande dessinée québécoise. Tiens, des BD que j'ai peu pris le temps de vous parler, notamment en septembre dernier, il y avait eu un roman graphique, Petit carnet de solitude, du journal d'une peine d'amour, qui nous avait été offert par l'illustratrice Catherine Gauthier. Alors, un livre essentiellement ambiant, axé sur des illustrations, des images très poétiques qui, évidemment, visent à nous rendre un peu ce sentiment de solitude. C'est un album qui est arrivé, en fait, on venait de traverser plusieurs vagues de COVID. Évidemment, la solitude qui était très au goût du jour, qu'on avait tous à différents degrés vécu, à laquelle on avait tous été à différents degrés confrontés. Une thématique qui est donc revenue aussi dans l'actualité de la bande dessinée au fil de différentes publications. On pense à Symptômes, entre autres, de Catherine Oslo. Alors, cet ouvrage de Catherine Gauthier était venu s'ajouter un peu à cet ensemble. Il y a un ouvrage qui était bien, bien réalisé. En fait, ça faisait penser peut-être un petit peu aussi à l'approche d'albums un peu hybrides entre illustration et bande dessinée, entre autres qu'avait offert Catherine Lepage, entre autres qu'avait offert Anna Roy. Donc, quelques éléments de texte, des images, un fil un peu thématique, mais on l'achète d'abord et avant tout pour l'esthétique, d'abord avant tout pour l'effet que cet album-là nous fera ressentir. Donc, un ouvrage d'art, d'impression, d'ambiance, de réflexion, dans le fond, auquel on peut se raccrocher, évidemment, là, puisque, je le disais tantôt, mais ça reste une dynamique, une réalité à laquelle on a tous et toutes été confrontés. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de le croiser en librairie, si vous le croisez, feuilletez-le, voyez si visuellement, narrativement, thématiquement, c'est quelque chose qui vous rejoint. Et si c'est le cas, ben nécessairement, ça peut être une belle proposition, justement, de mise en contact autour, justement, de la thématique de la solitude. Alors, ça, c'est Petit carnet de solitude de Catherine Gauthier chez Station T. Si on reste dans la bande dessinée québécoise, je mentionne également Bang, 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 le crépuscule des amochés. J'en ai parlé très, très rapidement en janvier dans mes coups de cœur, mais j'en ai pas reparlé depuis. Je me disais, mais ça peut valoir la peine de prendre quelques instants pour en faire une critique peut-être un peu plus formelle, un peu plus détaillée. C'est un album que j'ai beaucoup apprécié cette année, que j'ai beaucoup pris de plaisir à lire, à découvrir. Évidemment, auquel je ne m'attendais absolument pas non plus, il faut le dire. Je l'ai pris entièrement vierge d'idées et d'a priori par rapport à la proposition d'Étienne Prudhomme et j'ai été scié par le visuel. Dans le fond, on parle quand même d'un premier album, d'une première BD, donc c'est un visuel en noir et blanc, mais littéralement noir et blanc. Il n'y a pas de zone de gris entre les deux. Donc, ça nous rapproche. En fait, on parle beaucoup dans les clubs de lecture des esthétiques très saturées, entre autres d'auteurs souvent argentins. Alors, on est un peu dans ce type de visuel-là, donc des couleurs qui sont très, un noir qui est très noir, des blancs qui sont très blancs de toute évidence. Et donc, ça donne une esthétique bien particulière à ce récit. Et l'esthétique est pour beaucoup, à mon sens, dans le succès de ce premier opus de l'auteur. Alors, pour vous résumer brièvement l'histoire, donc on se retrouve, on suit un type, un boxeur qui, nous dit-on, dans le fond, a eu plusieurs commotions cérébrales. Donc, il est peut-être un peu ébranlé déjà au départ et le lendemain d'un match qui a mal viré, il va joindre un groupe de gens. Il y a un petit contrat, essentiellement, on comprend, donc c'est pour un vol de fourgon de banque, dans le fond, donc un vol qui devrait normalement être relativement important. Donc, malgré, dans le fond, une dynamique, une santé, un esprit un peu vacillant, donc il va plonger dans ce vol-là, mais le vol va tout sauf bien virer. Donc, on va se retrouver sur un pont, on va se retrouver autour du fourgon, on va se retrouver dans la brume, dans des tirs de fusil, c'est vraiment tout ce qui peut mal aller va mal aller, si on peut dire. Et à ce moment-là, il y a comme un point de bascule à l'intérieur du récit où on se rend compte, dans le fond, que notre narrateur n'est pas nécessairement un narrateur le plus objectif, que les douleurs associées à aux commotions cérébrales, au match, à la boxe et le reste amènent, dans le fond, la réalité à faire le chemin peut-être vers le cauchemar, peut-être aussi que ce qu'on voit est entièrement vrai, mais peut-être pas, il y a des enjeux de perception, évidemment. Il faut dire que la personne, l'anti-héros de l'histoire, dans le fond, va réussir à se sauver. Il va commencer une déambulation là, en essayant de se sauver des policiers, en pensant que les policiers sont à leur trousse. On va voir qu'est-ce qui a été volé finalement à l'intérieur de ce fourgon, encore là, en apparence. Donc, on joue un peu avec ces niveaux-là et avec une espèce de paranoïa, au bout du compte, qui va s'installer chez cette personne qui, clairement, d'un point de vue compréhension de la réalité, n'est pas nécessairement au niveau non plus. Donc, ça amène un récit qui est très ambiant et qui, je le disais, est servi par les éléments visuels et ce qui fait que l'ensemble qui nous est proposé fonctionne, marche là, vraiment. On a fait des bons choix, je trouve, sur le plan visuel et sur le plan narratif, mais ça déboule quand même assez vite. L'action reste en mouvement un peu à l'image de son protagoniste. Donc, on découvre un Montréal, mais à travers un regard qui est quand même assez sombre, assez dense, assez glauque, assez difficile. Et encore là, ça rajoute. Donc, c'est des lieux connus, mais des lieux connus qui sont un peu vus à travers le prisme de cet individu-là qui, visiblement, vit une crise assez importante. Donc, tous ces éléments-là fonctionnent. Évidemment, ce n'est pas une lecture qui est nécessairement facile. On est un peu dans le récit noir. On est un peu autour aussi de ce récit-là. Mais d'une ère ou d'une autre, le récit fonctionne. Ça carbure bien. C'est bien, bien organisé, bien chapeauté. Et sincèrement, pour un premier album, moi, j'ai trouvé ça très bon. Je suis curieux de voir qu'est-ce que l'auteur va nous livrer pour des albums subséquents. Mais très sincèrement, si vous avez encore là l'opportunité de le croiser, cet album-là, il a l'air de rien, peut-être un peu de l'extérieur, mais du moment où on le feuillette, on comprend un peu l'ambiance dans laquelle l'auteur souhaite nous amener. Et cette ambiance-là, si vous avez l'impression qu'elle vous parle, mais sachez qu'il réussit bien à l'exprimer à l'intérieur de son récit. Alors, c'est une recommandation de mon côté, évidemment sans surprise, puisque j'en avais déjà parlé de façon fort élogieuse. Peut-être autre petit clin d'œil, Jacques Lamontagne, auteur du coin qui, évidemment, est connu comme dessinateur, mais qui est également scénariste. Il en a fait quelques-uns des scénarios qu'on pense entre autres à Van Helsing contre Jack l'Éventreur. Et plus récemment, il a offert le scénario du manoir Sheridan, donc une nouvelle série qui est arrivée, une série qui se passe, nous dit-on, à quelque part au Canada. Donc, un manoir peut-être un peu improbable qui se trouve à proximité d'un un peu plus probable village. Et dans le fond, on suit un individu, Daniel, qui a un accident, qui se retrouve prisonnier des eaux, qui s'en sort, aidé par un géant, un peu improbable aussi, et qui se retrouve dans cet improbable manoir. Et là, d'un côté, bien, on comprend qu'est-ce que Daniel a fait pour se retrouver dans les eaux. Ça a un lien avec un vol aussi. Il est recherché par les autorités, donc ce qui le met en situation de vulnérabilité par rapport à ses hôtes, puisque le géant est accompagné d'un individu qui, lui, va justement avoir des raisons bien particulières donc pour choisir de le garder à la maison, qui, lui, va flairer la bonne affaire, sachant que, justement, il a une emprise à cause du fait des autorités qui poursuivent sur cet individu-là pour lui faire quelque chose. Et donc, on a un peu le rapport de pouvoir qui est clair à l'intérieur de ça. Et on ajoute une dimension un peu fantastique à ça, qui est rattachée dans le fond au manoir lui-même, à l'intérieur duquel il y aurait une porte qui nous mène vers un univers parallèle, un certain enfer, on pourrait dire ça comme ça. Et dans le fond, évidemment, on lui dit à Daniel de ne pas y aller, mais il va quand même y aller et éventuellement, il va être forcé aussi, contraint à s'y rendre, puisque à l'intérieur du manoir, il y a un mystère, il y a une jeune femme qui est catatonique, il y a le maître des lieux qui est plein de secrets, on ne sait pas exactement au départ qu'est-ce qu'il veut, ça va se dévoiler en cours de récit et évidemment, on termine ce tome 1-là avec un point de bascule qui va amener l'intrigue du tome 2 à se développer par la suite, on l'imagine bien. Alors, en fait, Jacques Lamontagne, qui, comme scénariste, reste, comme à l'habitude, je pense, assez efficace, assez précis dans, justement, les mystères qu'il nous dévoile, dans les histoires dans lesquelles il nous amène. J'avais beaucoup complimenté le rythme, entre autres, de Van Helsing contre Jack l'Éventreur. Je pense qu'on l'a aussi, ce rythme-là, à l'intérieur du manoir Sheridan. Donc, c'est bien structuré, le mystère est clair, on nous y accompagne bien. C'est intéressant de se retrouver aussi dans un paysage enneigé, dans un paysage qui nous fait penser au Canada, au Québec, dans la mesure où c'est souvent pas des paysages qu'on va retrouver non plus pour ce type de récit-là, pour une raison ou une autre. Donc, je suis curieux de voir où ça va déboucher, évidemment. Donc, ça reste quand même relativement classique dans la facture générale, mais c'est pas parce que c'est classique que ça marche pas, c'est pas parce que c'est classique que c'est pas intéressant non plus. On s'entend. Alors, donc, ça reste un récit engageant dans lequel, moi, je suis engagé. Je suis curieux de voir où ça va déboucher. Cela étant dit, ça reste un récit quand même classique qui ne cherche pas non plus à réinventer les paramètres, mais plutôt à bien faire, bien jouer, bien explorer des paramètres qu'on connaît peut-être déjà un peu là, à l'intérieur de ces récits de genre-là. Alors ça, c'est Le Manoir Sheridan, donc premier tome, c'est de Jacques Lamontagne et Ma Yi, et si je ne m'abuse, c'est du côté de l'édition Vent d'Ouest. Peut-être autre petit clin d'œil, et on change de répertoire complètement, BD documentaire qui fait mal, qui, disons-le comme ça, qui fait mal à lire, mal à découvrir. Le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jacovici. Jean-Marc Jacovici, dans le fond, qui est un polytechnicien, qui est un vulgarisateur scientifique, qui a fait, entre autres, le Carbone 4. Donc, essentiellement, quand on parle du bilan carbone, dont on a tous, à un moment ou à un autre, entendu parler, mais c'est Jacovici qui l'a inventé, qui l'a mis en place, qui l'a créé. Et donc, à travers Le Monde sans fin, c'est une BD documentaire qui questionne notre rapport au monde, qui questionne notre rapport à la Terre et qui questionne, au bout du compte, notre capacité à survivre sur Terre, sur une Terre dont on est en train de tirer toutes les ressources, un plaidoyer au bout du compte pour une décroissance raisonnable qui devrait nous ramener à un niveau de consommation qui est peut-être un peu plus acceptable, un rythme de consommation qui est peut-être plus soutenable aussi que le rythme de consommation qu'on a actuellement. Alors, un sujet qui est évidemment pleinement d'actualité, d'autant avec les rapports, les analyses et le reste, qui nous rappelle le mur vers lequel collectivement on s'en va. Mais évidemment, ces murs-là sont parfois difficiles à expliquer. C'est quand même un peu abstrait. Alors, la BD Le Monde sans fin a le bénéfice justement d'asseoir peut-être un peu certaines réflexions à travers le trait de Christophe Blain, à travers la capacité de vulgarisation de Jacovici. Ça rend la chose claire, ça rend la chose précise, ça illustre la chose. Et pour moi, c'est le genre d'ouvrage qu'on peut facilement proposer à quelqu'un qui a une curiosité de comprendre un peu certains pans de cette crise dans laquelle on est engagé, qu'on le veuille ou non, et parallèlement, qui peut servir aussi de porte d'entrée pour aller pousser un peu plus loin, pour comprendre un peu ces éléments-là. Donc, on va explorer différentes thématiques, évidemment. Donc, c'est un fil rouge qui est surtout porté par l'auteur, par Blain, qui se place un peu en monsieur, madame, tout le monde, qui est préoccupé, mais qui ne sait pas trop quoi faire, qui ne comprend pas exactement les tenants, les aboutissants, et qui va avoir envie d'explorer, justement, avec Jacovici, cette réalité-là. Donc, l'a priori de l'album qui devient, au bout du compte, l'a priori du récit en tant que tel. Et à travers cet a priori-là, on va développer plusieurs chapitres, on va parler d'énergie, on va parler de climat, on va parler de culpabilité, on va parler de logement, on va parler d'achat et j'en passe. Donc, on va explorer ces enjeux-là. Exemple précis sur la question énergétique, on va nous expliquer l'évolution, l'histoire énergétique au bout du compte de notre planète. On va nous amener avec l'idée justement du charbon, qui est un peu l'énergie qui a été la pierre d'assise. Éventuellement, on a introduit le pétrole qui devait techniquement remplacer le charbon. Éventuellement, on nous a amené l'uranium et le nucléaire qui devaient potentiellement remplacer le pétrole. Éventuellement, on nous a amené les énergies renouvelables, éoliennes, hydroélectricité, etc., qui devaient remplacer le pétrole ou le nucléaire. Mais évidemment, on nous explique bien gentiment que le remplacement ne s'est jamais fait. Dans le fond, que collectivement, on ne fait qu'ajouter source d'énergie sur source d'énergie sur source d'énergie, que les énergies renouvelables dont on entend tant parler ne sont qu'une goutte dans l'océan parce qu'on n'a jamais été capable, au bout du compte, d'un point de vue planétaire, de passer à autre chose que le charbon, de passer à autre chose que le pétrole. Et au bout du compte, avec toutes les nouvelles sources énergétiques qu'on a ajouté, qu'on est venu bonifier, ce qu'on a fait essentiellement, c'est de venir amplifier notre consommation, de venir la développer, de venir l'enrichir et tranquillement de persister vers un mode de vie qui est de moins en moins soutenable, qui est de moins en moins pérenne, parce qu'éventuellement, les ressources énergétiques vont être vidées, parce qu'éventuellement, dans le fond, cette surconsommation énergétique-là amène d'autres déstabilisations sur d'autres systèmes. On vous voyait un peu l'image qu'on nous donne et tout ça s'est exprimé, c'est très clair, c'était précis, c'est évidemment très alarmant, mais tout ceci est très alarmant aussi, alors c'est pertinent que ce le soit. Alors, c'est bien dessiné, c'est bien amené, c'est bien expliqué et ça en fait un récit qui, actuellement, dans le fond, brûle d'essentialité, brûle de nécessité, si on peut dire. Donc, cette sonnette d'alarme-là qui est lancé là, dans le contexte de cette bande dessinée, Le Monde sans fin. À lire absolument et sincèrement, là, je le réitère, là, c'est très bien vulgarisé, c'est très bien expliqué, c'est très bien amené, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Et peut-être un petit complément de lecture à faire avec Le Monde sans fin, pourquoi pas, Amalia, d'eau de Picot. Donc, c'est chez Dargo. Très, très belle bande dessinée d'ailleurs. Complètement dans un autre style visuel, mais qui nous amène aussi sur les mêmes questions, au bout du compte, sur l'insoutenabilité de notre mode de consommation d'un côté, mais sur l'insoutenabilité peut-être aussi de notre mode de travail. Donc, on aborde d'un côté donc, le fait qu'on consomme toujours plus, qu'on amplifie cette consommation-là par divers moyens, par diverses méthodes, etc., etc. Donc, ça, c'est amené. Et clairement, on voit d'ailleurs dans le monde dans lequel nous projette Amalia, qui est dans un futur pas si nécessairement si éloigné que ça, on a trop modifié le blé est en train de mourir, les poissons sont en train de mourir. Donc, on est au bout de la capacité de la planète à se renouveler pour soutenir l'humain, au bout du compte. Et en parallèle, qu'on a tellement poussé l'humain dans un cadre de performance que l'humain n'est plus nécessairement apte à se soutenir lui-même non plus. Donc, il y a un éclatement du social, il y a un éclatement du familial, il y a un éclatement de l'individu au bout du compte là-dedans, puisque tout le monde perd un peu contact avec soi-même, avec sa réalité et le reste. Donc, c'est aussi ce qu'on présente dans Amalia. Et on le fait à travers ce personnage, donc une mère de famille, qui est dans son cadre familial, qui est encore vaguement scindé, mais les cracks sont clairs, sont là. On n'est plus nécessairement avec une famille qui est aussi connectée qu'elle ne l'aurait été parce que le travail, parce que les études, parce que le rythme de vie. Le père travaille dans le milieu agricole, donc il est témoin de ces changements-là. La mère Amalia travaille dans un bureau, donc elle est sous pression constante. La fille est esclave un peu des réseaux sociaux, du cloud et le reste. Et donc, il y a une petite sœur aussi qui existe, qui vivote un peu à travers tout ça. Et Amalia, c'est un peu le récit de la prise de conscience face à cette insoutenabilité-là, d'abord de la mère elle-même, ensuite de sa famille et vers une certaine reprise en main, vers un nouveau départ que se donne cette famille-là, donc sur le plan de la consommation, autant que sur le plan du rythme de vie et comme tel. Ça fait quelque chose aussi de très, très intéressant à lire, à découvrir. C'est dessiné de façon très, très douce aussi. Ça tranche un peu avec le récit. Je trouve ça intéressant. Donc, bref, autre suggestion de lecture, donc cette Amalia d'eau de Picot. Alors voilà pour ces quelques commentaires BD. Eh bien, voilà ce qui met fin à cette édition de La vie en BD. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, que vous pouvez nous suivre sur Facebook. Cherchez simplement La vie en BD, vous allez nous trouver. Et je vous rappelle également que sur lavieenbd.com, vous avez l'ensemble des émissions depuis presque 12 ans qui sont disponibles en balado-diffusion. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine et nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours au plaisir d'être avec vous.